Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est la vacance.
T'es contente?
Oui, parce qu'on va avoir des cadeaux à Noël.
Et surtout, on va voir papy et mamie.
Oui, papy et mamie.
Vacances, j'oublie tout, sauf mon masque, sauf mon gel et sauf de faire attention avec papy et mamie.
Oui, 15 jours à haut risque s'annonce, Noël est le jour de l'an potentiellement explosif.
Du comportement des Français dépendra la suite, c'est beaucoup de pression sur les épaules des vacanciers, en particulier des plus jeunes.
Lui, il dit qu'il a fait attention, ça ne l'a pas empêché d'être positif. Emmanuel Macron donne de ses nouvelles ce soir sur les réseaux sociaux.
Le président s'est filmé avec son smartphone à la résidence de la Lanterne où il est confiné, il va bien et il dit qu'il continue de s'occuper des dossiers prioritaires.
L'Espagne va devenir le 6e pays au monde à autoriser l'euthanasie. C'est une grande révolution.
Un signal radio venu de l'espace qui interpelle. Et si une autre planète avait des caractéristiques similaires à la nôtre?
On tremble. Et puis le jeu vidéo le plus attendu de l'année, Cyberpunk 2077, est plein de bugs et de défauts techniques.
Et coup de tonnerre, Sony le retire de ses plateformes de vente. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,39% à 5527 points.
La météo avec Anissa. Bonsoir, chère Anissa.
Bonsoir, Julien.
Et voilà la pluie qui est de retour. Bonne nouvelle.
En fait, c'est un jour sur deux cette semaine. Eh bien, demain, c'est une nouvelle perturbation qui va traverser le pays. Côté température, là, ça ne bouge pas. Toujours de la douceur et des valeurs au-dessus des normales de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Trois mots ce soir. Je vais bien. Emmanuel Macron, confiné dans la résidence de la Lanterne à Versailles, s'adresse donc aux Français dans une vidéo filmée avec son smartphone.
Je vais bien. J'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. Pour le reste, je continue à gérer les affaires courantes. J'ai une activité qui est un peu ralentie aussi, mais les dossiers prioritaires, je continue à m'en occuper, qu'il s'agisse de l'épidémie ou par exemple du dossier du Brexit. Je voulais aussi vous passer un message pour vous, pour nous. Continuez vraiment à faire attention. Hier avec moi, il y a eu 18 000 Françaises et Français qui ont été testés positifs. Donc le virus repart, encore plus fort. Donc vraiment, j'en appelle à chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vous. Et donc nous allons tous ensemble résister. Le vaccin va arriver, nous allons continuer de nous organiser.
Emmanuel Macron qui s'associe donc à tous les Français qui sont actuellement malades, qui, on leur a noté, a l'air un peu fatigué, le regard est là, le teint un peu pâle, mais il joue donc la transparence et promet de donner régulièrement de ses nouvelles.
Oui, pour le président de la République, ce sera donc un Noël en solo, et d'ailleurs un anniversaire en solo, puisqu'il fête ses 43 ans, pour la petite histoire.
Alors que le top départ des vacances est donné, Julien, ce soir.
Et vous devriez être deux fois moins nombreux que les années précédentes à partir.
Ce Noël 2020 s'annonce forcément différent. Tout le monde a bien conscience que ce ne sera pas comme d'habitude. Et dans les familles, d'ailleurs, chacun s'organise pour que, malgré les contraintes, eh bien, la détente soit quand même au rendez-vous, Benjamin Péter.
Oui, et pour beaucoup, à la sortie de l'école, c'est un soulagement. Enfin, on va pouvoir se retrouver en famille et profiter un peu.
Ça va, ma puce ?
Oui, ça va. C'est la vacance.
T'es contente ?
Oui, parce qu'on va avoir des cadeaux à Noël.
Et surtout, on va voir papy et mamie.
Oui, papy et mamie.
Et chez Sarah et Céline, sa maman, le remède, ce sera de chanter pendant les vacances.
On va chanter faux, mais on va chanter. On va faire des karaokés, on va chanter des chants de Noël et puis...
Ça va faire du bien.
Ah ouais, ça va faire du bien, ouais. On va aussi faire un bon repas, c'est une parenthèse là. Pour oublier un peu ce climat qui est très tendu, qui stresse tout le monde. Puis là, ils sont fatigués, mine de rien.
Alors, quel protocole sanitaire adapté avec ses proches? C'est une question que tous ont en tête. Rester confiné, se faire tester, une solution qu'envisage Samir, qui part rejoindre ses parents dans les Pyrénées.
Moi, je suis déjà confiné, je suis restaurateur, je ne travaille pas, donc j'ai des contacts juste avec mes enfants. Je ne croise personne. Et donc, il y a peut-être cette idée-là de se faire tester avant, vis-à-vis des parents qui sont plus âgés. Donc, pour la semaine prochaine, quelques jours avant de partir.
Et avant de les voir, pour être sûr.
Voilà, c'est ça.
Mais ses parents, ses familles espèrent surtout mettre un peu de féerie dans ces deux semaines de fête après une année très angoissante pour leurs enfants.
Le reportage de Benjamin Péter à Toulouse.
Et on vient de l'entendre, ce que tout le monde redoute, c'est bien sûr de contaminer ses proches dans un contexte là aussi préoccupant puisque les chiffres, on vous le disait hier soir, c'est une mauvaise nouvelle, repartent à la hausse.
Oui, les indicateurs sont mauvais et ils pourraient l'être davantage encore, Ève Roger, après ces congés de fin d'année. C'est vraiment, vraiment ce que redoutent les autorités.
Et oui, prudence, 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 c'est le mantra du gouvernement qui espère que les Français ont bien compris le message de Noël.
La bamboche, c'est terminé.
Car en effet, en 2020, c'est un réveillon à 6 maximum avec masque, gel, tests et distances physiques. Notre avenir est entre nos mains, a confirmé ce matin Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, car si relâchement il y a, début janvier autour du 10, vous l'avez dit, il se lira dans les chiffres de contamination. Aujourd'hui, il tourne autour de 16, 18 000 nouveaux cas par jour. Il ne faudrait pas qu'ils augmentent trop dans les deux prochaines semaines, car vous connaissez le risque. La fameuse troisième vague, si redoutée. Mais le président du conseil scientifique se veut optimiste. Si on prend le mal à la racine, c'est-à-dire dès le début du mois de janvier, si le gouvernement prend des décisions à la hauteur de notre éventuel relâchement, alors on peut encore l'éviter, quitte à retarder la réouverture des restaurants, et à condition d'éviter un obstacle plus redoutable encore, le cœur de l'hiver et ses conditions si favorables au virus, le froid, l'humidité, l'absence de vent et de soleil.
Merci beaucoup Eve Roger. Et au nom de toute la rédaction d'Europe 1, je voulais juste vous remercier pour ces 10 ans passés à vos côtés. Vous tournez ce soir une nouvelle page professionnelle. Ça a été en tout cas un plaisir quotidien de travailler à vos côtés.
Pour en revenir... C'est réciproque, Isabelle.
Pour en revenir à Emmanuel Macron, vous savez qu'on dit que le président français...
Avec quelques applaudissements de la rédaction quand même.
Vous savez que le président français a été contaminé lors du sommet européen de Bruxelles il y a une semaine. Alors on n'a pas de certitude, mais on apprend aujourd'hui que le premier ministre slovaque, qui assistait également à cette réunion, a lui aussi été testé positif.
Cette fois, ce sera peut-être la bonne. On espère un week-end décisif pour le Brexit.
Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que cette fois, on va attendre la vraie fumée blanche. Hein. Ultime négociation pour combler le fossé entre Londres et l'Union européenne, en particulier sur la question de la pêche. Nous sommes à un moment de vérité, dit Michel Barnier, le négociateur européen.
Après les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, un nouveau pays européen s'apprête à légaliser le droit à l'euthanasie.
Ce pays, c'est l'Espagne. Hein. La Chambre des députés a ouvert la voie. Henri Delaguéry, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct. Henri, malgré l'opposition de l'Église et de la droite, c'était une mesure qui était vraiment plébiscitée hein, par les Espagnols.
Oui, car ici, le débat avait été relancé l'année dernière avec le geste de cet homme à Madrid qui avait filmé le suicide assisté de son épouse atteinte de la sclérose en plaques. Sur cette question de société, comme sur d'autres, les mentalités ont changé, se félicite Lluís Rabell, ancien député de Podemos, classé à gauche.
Il faut dire qu'en Espagne, on a vu l'adoption de toute une série de lois avancées. La loi contre les violences faites aux femmes en 2004, la loi qui permet le mariage entre personnes du même sexe. Différentes dispositions qui prouvent que la société espagnole est évolue et par conséquent c'est une bonne nouvelle dont on ne peut que se réjouir.
L'euthanasie sera possible en cas de maladie grave ou incurable. La demande du patient devra être validée par 2 médecins, puis par une commission. En cas d'incapacité physique, un représentant légal pourra en faire la demande à la place du malade, si celui-ci, bien sûr, a rédigé en amont un testament. Mais cette loi a rencontré l'hostilité de la droite et de l'extrême droite. Écoutez Santiago Abascal, leader de Vox.
La loi d'euthanasie est une défaite de la civilisation. On ouvre la porte à l'homicide légal, à l'horreur déguisée en compassion.
La loi qui reconnaît tout de même le droit aux médecins de faire valoir leur objection de conscience entrera en vigueur après validation du Sénat en janvier.
Merci beaucoup Henri Delaguéry en direct de Barcelone.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite du journal Isabelle Millet, 18h10. Et cette nouvelle donc fascinante en provenance de l'univers.
Eh oui, un radiotélescope européen vient de détecter ce qui ressemble à un signal radio en provenance d'une exoplanète. Alors dit comme ça, ça ne nous parle pas beaucoup forcément, mais c'est une découverte qui ouvre le champ des possibles, Jeanne Bergaoui.
Absolument, parce que la présence d'un champ magnétique protecteur autour de ces exoplanètes, c'est un ingrédient favorable à leur habitabilité, ce qui serait donc propice au développement d'une forme de vie. Alors, ces chercheurs se sont concentrés sur 3 exoplanètes situées à environ 50 années-lumière de la Terre. Ils ont analysé 100 heures de données, des ondes radio à très basse fréquence, des ondes lumineuses invisibles, et le signal observé par ce radiotélescope européen correspond donc à la signature d'un champ magnétique, explique Philippe Zarca, chercheur au CNRS. Il est l'un des auteurs principaux de l'étude.
Pour nous, les chercheurs, c'est très important parce que découvrir les champs magnétiques des exoplanètes, c'est pouvoir en fait étendre l'étude des planètes magnétisées au-delà de notre système solaire. Et dans notre système solaire, les planètes magnétisées sont toutes différentes les unes des autres. Donc on a envie d'accroître la population pour ensuite dégager les traits généraux des particularités.
Si cette découverte se confirme, explique Philippe Zarca, cela signifie aussi la validation de cette technique de détection radio à très basse fréquence, un domaine d'énergie encore peu exploité.
Les précisions de Jeanne Bergaoui.
Cela aurait dû être le cadeau star de Noël pour les amateurs de jeux vidéo, Cyberpunk 2077.
Sauf que la belle histoire vire au cyberbug. Sony a retiré aujourd'hui le jeu de sa boutique en ligne. Alors si comme moi tout ça ne vous parle pas beaucoup, Clément Le Saffre, expliquez-nous les enjeux et les raisons de ce fiasco aux lourdes conséquences économiques.
Oui, rendez-vous compte, un Cyberpunk 2077 a coûté 300 millions de dollars au studio polonais CD Projekt. Et pour vous dire l'attente qu'il a suscité, il a été rentabilisé dès le premier jour grâce à 8 millions de jeux précommandés. Sauf que depuis sa sortie le 10 décembre, rien ne va plus. Et c'est une surprise car Cyberpunk 2077 avait tout pour réussir. Ce jeu de science-fiction très ambitieux, inspiré de Blade Runner, fait rêver les gamers depuis 2013.
Prêt à prendre une claque ? Allez !
C'est une ville comme une autre, et en plus grand.
Non, Mano, elle a rien d'ordinaire. C'est ici que naissent les légendes.
Oui, mais voilà, Cyberpunk 2077 a commencé à dérailler en début d'année. Alors qu'il devait sortir en avril, le jeu est reporté à octobre, puis décembre. On apprend que les développeurs travaillent 6 jours sur 7 pour boucler le jeu à temps. Et tout ça pour rien. Sur PS4 et Xbox One, les consoles les plus répandues, Cyberpunk 2077 est truffé de bugs, les graphismes sont laids, comme si le jeu n'était pas fini. Et le voilà renommé Cyberbug 2077. Et c'est pour ça, parce qu'il est injouable, que Sony a décidé de le retirer de sa boutique en ligne. Des milliers de joueurs demandent désormais à être remboursés. En quelques jours, l'action de CD Projekt a dégringolé de 40%. Le studio s'est excusé, il promet des mises à jour pour améliorer le jeu. Mais cette séquence du jamais vu va laisser des traces.
Clément Le Saffre du service Écho d'Europe 1. Et puis un visage familier des Français a quitté aujourd'hui le paysage audiovisuel. Jean-Pierre Pernaut, qui a présenté à la mi-journée son dernier JT. Ça fait 33 ans, rendez-vous compte, qu'il accompagnait les téléspectateurs de TF1 à l'heure du repas. Et forcément, la gorge était un peu nouée au moment de dire au revoir.
Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Merci à tous, je vous embrasse du fond du cœur, merci, je vous aime, je vous oublierai jamais.
Voilà, un au revoir, mais pas des adieux pour Jean-Pierre Pernaut qui fourmille, paraît-il, de projets.
33 ans, vous vous rendez compte ? Moi, j'avais 7 ans quand je regardais Jean-Pierre Pernaut avec mes grands-parents sur le canapé. Toute une histoire, toute une époque. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et le journal à 19h. La météo, ça s'annonce pas terrible pour demain, ma chère Anissa, avec un temps plus perturbé qu'aujourd'hui.
Oui, de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, le temps est légèrement pluvieux demain matin. Alors en fait, nous avons une perturbation qui va traverser le pays, mais vu que les pressions sont encore très élevées, cette perturbation, elle est peu active. Donc demain, dans l'après-midi, des Hauts-de-France jusqu'au Pays Basque, sur la moitié ouest du pays, le ciel est couvert, l'après-midi sera pluvieuse dans ce secteur, à l'avant de la perturbation. En Alsace, Vallée du Rhône, Massif central et Pyrénées-Orientales, là le temps est sec et le ciel voilé. Et puis la perturbation va avancer légèrement pour apporter quelques gouttes sur le Massif central ou encore la Bourgogne. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Et il y aura de la pluie sur les reliefs et des pluies fortes sur les Cévennes. Les températures, elles ne bougent pas, elles, et elles sont toujours au-dessus des normales de saison, avec 3 à 9 degrés sur l'ensemble du pays demain matin, jusqu'à 12 au bord de la Grande Bleue, et 9 à 17 degrés demain après-midi. C'est exactement les mêmes températures qu'aujourd'hui. 9 à Belfort, 12 à Paris, et jusqu'à 17 degrés en Corse, à Bastia.
C'est vrai qu'il fait sacrément doux,
très, très
pour
doux.
Une fin décembre.
Mais pour Noël, le thermomètre va bien baisser.
Oui, et vous avez vu que l'année 2020 s'annonce déjà comme l'année la plus chaude de tous les temps.
Avec
en
plus
France,
de 14 degrés en moyenne sur l'année.
C'est assez, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.